Spectacle vivant. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Claire Poirson. Salut Claire.
Bonjour.
Depuis le marathon radio, juste avant les vacances, on t'avait pas retrouvé sur les ondes. Ça s'était bien passé, hein, c'était une fiction radio que t'avais écrite, Alexandre.
Que j'avais écrite. C'était adapté de Réservoir d'Hommes.
C'était adapté, mais c'était adapté par tes soins quand même.
Ah, oui.
Voilà, donc faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Elsa, toi aussi, hein, tu avais fait plein de choses dans le marathon, mais c'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui, même si on avait passé des bons moments. Claire, tu viens nous parler de merde aujourd'hui.
Oui, dit comme ça, oui, je viens parler de merde, effectivement. Merde, qui est mon recueil de scénettes, je crois que c'est le moment de le préciser.
Tout à fait, t'inquiète pas, on l'a précisé avant, les auditeurs étaient au courant. Donc voilà, tu l'as dit, un recueil de scénettes. On va aussi parler d'un spectacle que tu proposes au Bordelais à la fin du mois, le 28 janvier. On va passer tout ça en revue. Est-ce que tu peux présenter ton nouveau recueil auprès de nos auditeurs?
Alors, merde, l'idée du titre, c'est le fameux merde qu'on donne aux comédiens avant qu'ils montent en scène. Et moi, chaque fois, je me fais avoir et je réponds merci, surtout dire je prends. Donc, je me prends des regards, je me fais fustiger, voilà.
Ah, faut pas dire merci, mais faut dire je prends.
Je prends, voilà.
Ah, ok.
C'est très particulier. Donc voilà, et ce mot merde, j'ai toujours trouvé très drôle. Alors, il y a plein de légendes à ce sujet. Les calèches qui stationneraient devant les théâtres à l'époque des rois. Et plus il y aurait de merde, plus il y aurait de calèches et donc de public.
Ah oui.
Voilà, mais après, il y a plein d'autres. Et en fait, le jargon du théâtre est plein de choses qui portent la poisse ou qui portent chance. Et j'ai voulu jouer sur ces codes du théâtre et c'est de là qu'est née l'idée de ce recueil de scénettes. Jouer avec les codes du théâtre qui m'accompagnent depuis que j'ai 9 ans, qui est ma passion. Donc, on y retrouve l'univers du mime, du clown, du théâtre classique, je parodie du Shakespeare avec des si et des h, enfin voilà. L'idée, c'est de rendre hommage au théâtre sous forme humoristique. Voilà.
Donc c'est un recueil qui est paru très récemment, en décembre, hein, décembre dernier, c'est ça. Donc il a un mois à peu près.
Voilà.
Voilà, c'est édité aux éditions Execo, puisqu'on le redit, hein, Claire, c'est pas ton premier passage à Radio Campus, mais quand même, tu chapeautes les éditions Execo, un éditeur indépendant sur Bordeaux. Et puis toi, ton truc, c'est le théâtre aussi, hein, tu as un master en mise en scène et scénographie, et t'as fait une formation de comédienne au Conservatoire de Mérignac, c'est bien ça, hein?
Oui.
Ok, donc ça c'était pour le petit rappel, voilà, on t'a bien cerné, parce que pour les nouveaux auditeurs qui nous rejoignent, donc tu as dit, voilà, le titre c'est Merde, et tu joues dessus avec, enfin dans ce recueil, tu joues avec beaucoup de codes comme ça, qui sont autour du théâtre. Est-ce qu'il y a des choses comme ça avec lesquelles tu t'amuses, d'autres codes qu'on retrouve dans cet ouvrage? Je crois qu'il y a quelque chose avec les cordes.
Oui, alors c'est précisément ça, donc c'est pour ça d'ailleurs que le recueil s'appelle Merde, c'est que mon premier sketch est basé sur les superstitions. Par exemple, j'ai fait des stages dans des théâtres, on va dire, conventionnels, ou à l'Opéra de Bordeaux, ou dans des lieux un peu à l'ancienne, on va dire, et il m'est déjà arrivé de dire corde, parce qu'il y en avait, ou qu'il m'en fallait une, et vraiment, il y a encore des gens pour qui c'est important actuellement, et qui auraient pu me jeter par-dessus bord, voilà, dans le public, quoi, tellement ça les... voilà, j'ai senti qu'il fallait surtout pas dire corde. Donc, bien sûr, comme je suis une personne très respectueuse, j'ai fait tout un sketch où le but, c'était de placer le plus possible le mot corde. Et les comédiens sont habillés en vert, il y a des œillets, autre chose qui porte malheur au théâtre, et j'ai voulu comme ça les collectionner pour titiller un petit peu, parce que qui aime bien châtie bien.
Et toi, tu adores le théâtre, donc tu châties beaucoup.
Voilà, je châtie beaucoup.
Écoute, j'en profite parce que moi, je connaissais pas du tout toutes ces superstitions autour de la corde, des œillets et la couleur verte aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on revient, mais on oublie un petit peu. Pourquoi? Tu peux nous redécrypter toutes ces superstitions?
Moi, le vert, c'est aussi ma couleur préférée. C'est vraiment ma superstition préférée. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que ma couverture est verte. Voilà. Donc, le vert, en fait, à l'époque de Molière, en fait, les pigments n'étaient pas faits comme maintenant, forcément, de manière industrielle. Donc, on mettait des pigments naturels. Et pour le vert, on mettait de l'arsenic. Donc forcément, le jeu du théâtre du 17e, un peu comédia dell'arte, assez dynamique qu'il y avait dans les pièces de Molière, avec, bien sûr, on n'avait pas d'éclairage LED à l'époque, donc on avait plein de chandelles, parenthèse, c'est aussi de là que vient l'expression « voir 36 chandelles ». Donc on avait très chaud, on courait, donc les pores de la peau avaient tendance à se dilater, et donc, selon certaines rumeurs, l'arsenic serait rentré dans la peau de Molière et aurait provoqué, non pas son décès sur scène, j'en profite pour enlever une fausse rumeur, mais le malaise qu'il a fait mourir une heure après chez lui. Voilà, ça c'est pour ça que le vert porte malheur au théâtre. Molière n'est pas du tout mort de ça en vrai, ça, ça a pris des proportions démesurées. Il avait des tubercules sur les poumons et on sait que c'est de ça qu'il est mort. Il crachait du sang, il avait froid. Bon, voilà. En tout cas, ça, c'est pour le verre. Et pour les œillets, c'est très mignon. Quand on voulait garder une comédienne dans une compagnie à l'époque, donc toujours à l'époque de Molière, hein, on lui offrait des roses. Et quand on voulait la dégager, on lui offrait des œillets. Plutôt que de lui dire « va-t'en », c'est un peu « casse-toi, tiens, voilà des fleurs ». Donc depuis, forcément, les œillets portent malheur au théâtre parce qu'on n'est pas trop content quand on en reçoit. Voilà, un petit peu les principales superstitions et une toute petite mignonne, si je peux me permettre, pour finir.
Bien sûr, évidemment.
Alors, un truc qui porte malheur au théâtre, mais qui est totalement absurde, les koalas.
Ah oui, parce que voilà, tu les listes un petit peu en quatrième de couverture. Et puis, oui. Alors pourquoi le koala, c'est complètement...
Alors parce qu'au XVIIIe siècle, dans une pièce en Australie, je ne me risquerai pas à citer la ville, mais en Australie, un koala aurait escaladé un machin de théâtre, enfin un poteau de théâtre, voilà, en croyant probablement que c'était de l'eucalyptus ou je n'en sais rien, et il a mis le feu au plateau. Donc depuis, les koalas sont interdits sur les plateaux de théâtre. Alors on n'en croise pas souvent, ça tombe bien.
Non, c'est vrai, ouais.
C'est moins fréquent que le verre ou les œillets, mais bon.
Et la corde, alors, pourquoi aussi ?
Alors, la corde.
Désolé, parce que je sais qu'il y a Elsa qui trépigne depuis tout à l'heure, mais la corde, la corde.
Alors, la corde, bah, ça vient du fait qu'à l'époque, classique, encore une fois, on a énormément de légendes, de superstitions du théâtre qui viennent de l'époque classique. À l'époque, les personnes qui allaient s'occuper, nos régisseurs, nos técos, on va dire, du théâtre actuel, bah, on prenait les matelots beaucoup de passage, qui avaient une escale, donc qui potentiellement étaient libres. Et donc, bah, les matelots de passage, eux, avaient cette superstition des cordes, parce que la corde sur les navires, donc déjà, je viens de dire trois fois le mot, je vais me faire détester par les théâtreux, sur les navires, la corde était la corde de pendaison. Et après, je ne connais pas tous les détails dans la navigation, mais en tout cas, ça vient du monde maritime.
Ok, c'est-à-dire qu'en tant que théâtreuse, tu n'as même pas le droit de dire le mot en dehors d'un théâtre, c'est dans ta vie, en fait.
Si, mais...
C'est ta malédiction, voilà.
Bon, moi, je le dis dans les théâtres, mais bon, il y a des théâtres qui ont plus ou moins d'humour là-dessus, qui vont dire, bon, bah, si tu utilises le mot, tu payes ta tournée, ou qui se donnent des petits gages comme ça, mais il y en a, on sent vraiment que ça les choque, donc il faut y aller doucement. Mais c'est de moins en moins répandu quand même, heureusement.
Et toi, tu mets les pieds dans le plat, et dès ta première scénette dans Merde, tu mets tout ça dans une scénette qui est très courte, parce qu'il y a combien de scénettes dans ce recueil ?
Il y en a une trentaine.
Une trentaine, d'accord. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait redéfinir ce que c'est vraiment qu'une scénette ? Est-ce que c'est tout simplement une petite scène ?
C'est ça.
Parce que ça ne s'écrit pas du tout oui. Petite scène avec deux TE à la fin.
Oui, S-A-Y, ouais. c'est... Effectivement, ça veut dire quand même petite scène. Okay. C'est plus ou moins des sketchs, en fait.
Et donc c'est indiqué derrière, ça dure 2 heures l'intégralité, et on n'a pas besoin de beaucoup de comédiens pour les jouer, c'est entre 1 et 5 par scénette, parce que en fait tu mets ce recueil à disposition des troupes pour qu'elles l'interprètent à leur manière, c'est ça ?
C'est ça, alors moi l'idée c'est aussi que je suis metteuse en scène, donc je sais aussi un peu le calvaire que ça peut être de lire le texte parfait, de se rendre compte à un moment que « Ah, la comédienne doit être blonde et avoir, je sais pas, les yeux bleus, machin, elle doit mesurer... » Bon voilà, et là j'ai voulu en fait... Faire un recueil de scénettes le plus malléable possible, le plus possible non genré. Je le précise dès le début en disant que le seul genre qui importe ici, c'est le théâtre. En disant, voilà, si vous voulez mettre des hommes à la place des femmes ou des personnes non genrées, vous faites plaisir. Et effectivement, j'ai voulu que le maximum sur scène soit 5. Et c'est extrêmement rare. En général, ils sont 3 maximum dans la plupart des scénettes. Donc je veux vraiment que ce soit un outil, parce que j'ai conscience que l'écriture... Bon, le recueil est un produit fini en tant qu'édition papier, mais c'est aussi un support à un travail plus long qui doit être réadapté par un metteur en scène avec des comédiens. Et donc j'ai conscience aussi qu'on travaille à plusieurs pour créer un spectacle vivant, quoi. Donc je veux laisser la place à chaque... maillon.
Mais en tant que troupe, en fait, toi, tu vois comment cette appropriation de ton recueil par une troupe, c'est l'intégralité où tout le monde peut vraiment piocher comme il veut pour faire un enchaînement sur mesure.
Alors moi, je m'offusquerais pas du tout qu'on fasse un enchaînement autre. D'ailleurs, bon, j'ai fait un choix plus ou moins sur la rythmique, changer les tonalités, j'essaie de faire quelque chose d'assez homogène. Mais si d'autres compagnies souhaitent structurer la pièce autrement, et j'aime beaucoup justement qu'on me réponde. C'est-à-dire pas juste avoir une copie de ce que j'ai dit. C'est pour ça que je n'aime pas me mettre en scène moi-même, que j'aime mettre en scène d'autres textes écrits. C'est aussi que j'aime bien ce ping-pong où un metteur en scène va répondre à un auteur ou un auteur va répondre à un metteur en scène. Et justement, le fait qu'on fasse autre chose avec le matériau que je propose, pour moi, c'est une belle opportunité d'échanger.
Et je crois qu'il y a une scénette qui parle de ça, justement, avec un metteur en scène qui a des trous de mémoire.
Alors, non, c'est le comédien qui a des troubles de mémoire, parce que le comédien, c'est Marcel Proust, et il n'y a plus de Madeleine en régie. Donc, bah forcément, il n'a plus rien pour se souvenir de son texte. Et en fait, il a l'habitude de jouer qu'on lui jette des madeleines trempées dans du thé. Voilà.
Tu peux nous citer d'autres petites scénettes, peut-être tes préférées, celles que tu trouves particulièrement croustillantes?
Alors, mes préférées... Alors, j'ai écrit tout un sketch sur le bon moment au bon endroit où un journaliste va interviewer deux artistes qui sont assis quelque part et leur demande pourquoi ils sont là et ils disent qu'ils attendent le bon moment au bon endroit. Parce que j'en avais marre de cette aberration en tant qu'artiste quand on nous dit oui, mais il faut être au bon endroit au bon moment, le facteur chance, le fameux facteur chance, et j'ai voulu rigoler là-dessus. Et... Donc il y a celui-là. Après, j'avais pris pas mal de plaisir à écrire, parce que pour moi, mes préférés sont ceux que j'ai pris le plus de plaisir à écrire, hein, simplement. J'ai fait une course de mimes. Donc des mimes qui doivent arriver à la ligne d'arrivée, sauf que comme ils miment, ils n'avancent pas, donc ça dure un moment. Voilà.
Et les scénettes, justement, tu dirais que c'est un format qui apporte quoi par rapport à d'autres formats de théâtre ?
Alors, moi, j'ai pris ça à la base un peu comme un exercice. Après, j'aime beaucoup des auteurs comme Queneau, donc pour moi, j'essaie de faire en sorte quand même que ce soit intéressant à lire tant qu'à faire, mais aussi que moi, ça m'apporte quelque chose pour sortir de ma zone de confort et ne pas toujours écrire la même structure de pièce. Et en fait, dans une scénette, il faut aller tout de suite à l'essentiel, on est obligé de poser les personnages sans être explicatif. Je ne peux pas dire « Ah bonjour, je viens pour... » Enfin, on ne peut pas expliquer, il faut que les gens comprennent, mais il faut se faire comprendre extrêmement vite, puisque la dynamique doit être très intense sur un temps très bref. Donc c'était aussi chercher une autre dynamique, une autre présentation de personnage, une autre manière d'aborder le texte de théâtre.
C'est quelque chose qui peut être utilisé donc en cours de théâtre, en option théâtre au lycée ou même à l'université, par exemple.
Oui, l'écriture de scénettes.
L'écriture de scénettes, ouais. Et puis ton recueil, par exemple, si on veut travailler des points particuliers du jeu théâtral, est-ce qu'on peut se servir de ton recueil comme support?
Je pense, oui. je laisse les enseignants en juger, mais... En tout cas, l'écriture de scénettes à proprement parler, moi je l'utilise, donc je donne des cours d'écriture de théâtre à l'école des 3e à Bordeaux, et on travaille essentiellement sur l'écriture de scénettes, justement parce que ça permet de développer tout ce qui est canevas d'écriture, mais de manière intense et réduite, et c'est un vrai challenge, donc c'est ce qui est le plus efficace, je trouve.
Donc tu l'as dit, c'est des répliques, c'est des scènes qui s'enchaînent de manière assez frénétique, très rapide, parfois c'est un échange entre deux personnages. Oui. Si une troupe veut en faire un spectacle de tout ça avec l'enchaînement des scénettes et garder un certain dynamisme, ça paraît un peu contraignant. Je pense au héros mourant qui le héros mourant sur le déclin. Voilà, où il y a un petit jeu de mots dedans, on va pas trop en révéler. Mais ça demande à ce que deux comédiens viennent, disent une réplique chacun et repartent. Comment on peut faire pour respecter ça en fait, pour garder un dynamisme?
Alors, j'aime bien laisser des solutions à portée de main, mais laisser aussi le champ libre. Des fois, je mets des didascalies en disant au metteur en scène ou à celui qui me lit, bon, vous en faites ce que vous voulez, c'est là, puis vous pouvez faire autre chose. Donc, j'aime bien laisser très libre. Donc, pour moi, il y a plein de façons de le mettre en scène parce que je ne dis pas, voilà, noir sur scène, le héros est là, tac. J'essaye à la fois de suffisamment décrire pour qu'un lecteur puisse s'y retrouver, comme on lirait un roman, et avoir ses repères et... donner un décor, un cadre, on va dire. Mais j'essaye aussi de laisser une liberté, justement, pour ne pas avoir une forme trop contraignante où, justement, ce genre de problème pourrait se poser.
Est-ce que c'est pas un peu non orthodoxe en tant que metteuse en scène de laisser autant de liberté sur la mise en scène, justement, d'une pièce? Parce que souvent, quand il y a une mise en scène, l'auteur de cette mise en scène tient à ce qu'elle soit respectée ou pas trop dénaturée, en tout cas.
Bah justement, c'est là tout le problème, alors surtout avec les classiques, quand et le monsieur est mort et qu'on ne peut plus lui demander son avis, c'est que bon, on va mettre en scène et tout, donc super scène de colère, les comédiens sont à fond, et puis là, ils sont tous les deux debout, très énervés, et il se lève. Et merde, ça fait 10 minutes que mon comédien est debout, qu'est-ce que je fais? Et les didascalies, des fois, peuvent être vraiment pénibles. Probablement que l'auteur qui a écrit ça, lui, dans sa tête, c'était évident qu'à ce moment-là, le personnage se levait. Mais nous, on a construit toute la dynamique autrement. Et en fait, souvent, il y a plein de petites didascalies qui vont vraiment être très pénibles. Donc, j'essaye de rester à ma juste place à l'écriture, de donner ce qu'il faut, mais de laisser la place au metteur en scène. Et j'ai beaucoup de mal. Alors, j'adore lire Beckett en tant que l'actrice. Mais à la mise en scène, je m'y suis un petit peu frottée aussi. Et c'est vrai qu'il ne voulait absolument pas qu'on touche à ces didascalies. Il refuse les droits à quiconque changerait la moindre didascalie. Encore actuellement, son ayant droit surveille ça. Et je trouve que c'est vraiment... Ça enferme, ça... C'est très serré, quoi. C'est...
Et donc pour toi, même une pièce de théâtre qui bouleverserait complètement la pièce d'origine, on va prendre un exemple de Shakespeare. J'ai un exemple qui me revient en tête, là, c'était avec James McAvoy. Et c'était, je crois que c'était l'adaptation de Macbeth, mais en comédie musicale où tous les personnages sont habillés de la même manière, en un peu un costume noir à la boys band. Et ça avait l'air très perturbant. Pourtant, j'adore James McAvoy. Shakespeare, c'est très très bien. Mais ça m'avait pas du tout envie de donner envie d'aller le voir. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce genre radical de mise en scène par rapport à une œuvre classique dont tout le monde a une petite idée, en fait ?
Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a la fidélité au texte. C'est un peu... pour moi, le problème, c'est que dans ce genre de choses qui réadaptent totalement le texte, c'est rare qu'il reste intact. Donc, il faut quand même faire un travail de médiation suffisant pour que le public sache où est le texte d'origine et où est le travail de réinterprétation. Si ça est respecté, il y a aussi le problème de l'intelligence et du pourquoi est-ce qu'on fait ce travail de réadaptation, qui peut être hyper pertinent et des fois, j'en doute un peu plus. J'ai vu un excellent... c'était un Malade imaginaire à Avignon il y a quelques années, où en fait, simplement, ils avaient pris le parti de le jouer façon Burkina Faso avec des robes africaines. C'était vif en couleurs et je trouvais que Molière récupérait une dimension charnelle qu'on oublie souvent dans le théâtre actuel où les jeunes premiers sont très courtois, n'ont pas du tout d'envie sexuelle quelconque. Là, on remettait les pulsions, le côté dansé était magnifique. Et en fait, ils ont voulu mettre en parallèle le charlatanisme médical du XVIIe en France avec tout ce qui va être marabout. On voit souvent ces petites annonces très rigolotes des gens qui peuvent nous faire gagner tous les numéros du loto, tout ça. Donc voilà, il y avait une mise en perspective qui était vraiment intéressante et ça apportait quelque chose à Molière, ce changement, on va dire, cette réadaptation. Maintenant, pour les 400 ans de la naissance de Molière, la Comédie française a fait une adaptation de Tartuffe, et là, je suis un peu moins certaine, où on voit Tartuffe se flageller sur scène, il y a un moment où il est nu, la mise en scène est toute noire, il y a un carré de papier blanc par terre. Je ne comprends pas, et souvent, je trouve que tout changer à Molière, ça peut être aussi une occasion pour se faire passer pour intelligent, quand finalement, il n'y a pas de raisonnement derrière. Alors là, c'est la mise en scène de Ivo van Hove, s'il y en a qui ont envie de tenter. Et je trouve ça dommage parce que, oui, on voit un monsieur se fouetter, être nu, sur fond blanc, enfin sur fond noir avec un carré blanc. Je ne vois pas ce que ça apporte au texte.
Et tout ça de la comédie française.
Et souvent, quand on ne comprend pas, comme ça nous échappe, le metteur en scène va se sentir plus intelligent, va dire, c'est l'intelligentsia.
Vous n'avez pas le bagage culturel pour comprendre mon œuvre.
C'est ça. Donc, il ne faut pas non plus être dans une opacité un peu méprisante non plus.
Revenons à Merde, Claire Poirson.
Oui.
Tu dis donc que ce recueil, c'est une véritable déclaration d'amour au théâtre. Donc à travers ces codes avec lesquels tu t'amuses beaucoup, est-ce qu'il y a autre chose qui exprime ton amour pour le théâtre dans cette œuvre ?
Autre chose qui exprime mon amour pour le théâtre, sur l'écriture, je me suis aussi amusée avec mes modèles. Il y a beaucoup d'inspiration de Roland Dubillard, donc les Diablogues. Parce que c'est un auteur que j'aime énormément. Il y a bien sûr des clins d'œil à Molière. Donc il y a aussi, je joue aussi avec les textes des auteurs que j'aime bien. Je joue aussi avec l'univers du théâtre, avec les codes, tout ce qu'on vit au quotidien en tant que comédien, metteur en scène. Il y a un texte qui s'appelle « Comment attraper un journaliste ?» parce que quand on leur envoie des invitations professionnelles, ils ne viennent jamais. Donc je suggère de leur préparer des petites boîtes avec des petits trous dedans pour les laisser respirer et de semer du fromage, quoi.
Ah, c'est ça la boîte à l'extérieur du studio, ok.
Voilà, donc c'est aussi c'est cet amour des choses qui peuvent aussi nous gonfler au quotidien parce qu'on est là pour mettre en scène une pièce, on se retrouve à demander des subventions, à devoir faire venir des journalistes et plein de choses un peu pénibles. Mais en fait, c'est aussi ce qui fait notre métier et à quoi on repense en riant après. Voilà, donc il y a beaucoup de tendresse.
Donc Merde aux éditions Execo, on se le procure où ?
En librairie, sur Internet. Où on veut. Auprès
partout.
De moi, pour ceux qui me connaissent.
D'accord. On peut les commander aussi sur le site des éditions Execo, c'est ça ?
Ouais, sur le site des éditions Execo ou sur Internet.
Vraiment partout. Ouais. Voilà, il est accessible avec le reste des collections. Donc, c'est la collection Entracte. Donc, c'est la collection théâtre des éditions Execo. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cet ouvrage ?
Sur cet ouvrage, que veut-on ajouter ? Je ne sais pas.
Écoute, on a fait le tour. Je pense qu'on peut passer à un spectacle que tu nous proposes à la fin du mois. Donc un spectacle que tu as écrit. Enfin, c'est plutôt un ouvrage. Mm-hmm. Mais avant toute chose, je voudrais revenir sur l'affiche. Est-ce que tu t'es inspirée d'Avatar ? Est-ce que t'es toute bleue dessus ?
Alors, l'affiche, je remercie au passage Morgane Visconti qui m'a fait la photo qui a servi au visuel de l'affiche. Effectivement, bah, je cherchais quelque chose d'un peu dans le rêve, le côté...
Elle est très jolie, ouais. Hein, je taquine évidemment, mais elle est très très belle.
Quelque chose,
ouais. C'est toi bleu avec des étoiles, puisque tu es sur le chemin des étoiles. Donc, c'est un spectacle, mais avant toute chose, c'est un ouvrage que tu as écrit. C'est une sorte d'OVNI, est-ce que tu peux nous le présenter ?
Alors oui, c'est un ouvrage volant non identifié, d'où le sous-titre OVNI. Je l'ai vraiment fait cataloguer par ma maison d'édition en OVNI. J'ai une directrice formidable aux éditions Ex Aequo. J'ai pu appeler un livre merde. Elle m'a dit « t'es sûre, on va être censurée ». Elle l'a laissé passer. Et là, elle a accepté que mon livre sorte catégorie OVNI. Donc je la remercierai jamais assez pour ça. Alors ce livre, en fait, l'idée, c'est que c'est un mélange. C'est à la fois une quête sentimentale et astronomique, en fait. C'est une conquête dans les étoiles et une conquête sentimentale. Et l'idée, c'est de montrer que pour dire au plus près le sentiment amoureux, parfois les mots ne suffisent pas. Et donc il faut aller chercher dans un mélange entre les disciplines. Moi, l'interdisciplinarité, c'est quelque chose de très important pour moi. Je suis un peu papillonnante dans ma vie de tous les jours. J'aime bien faire un peu de tout. Et donc là, j'ai choisi de réunir quelques-uns des arts qui comptent pour moi pour essayer de me rapprocher au plus près possible du sentiment amoureux. Donc il y a des contes, il y a des scénettes, encore une fois. Il y a des poèmes, des nouvelles, des dessins, des acryliques. Il y a même un tag. Voilà. J'ai mis du morse et du braille aussi dedans.
Ah oui, c'est un grand gloobie-boulga en fait.
Voilà, parce que l'idée c'était d'aller chercher vraiment au plus près, et il y a des choses qui peuvent se dire avec des mots, d'autres avec des images. Je trouve qu'il y a une complémentarité entre les arts et j'aime bien essayer de l'utiliser.
Et puisque ça parle d'amour, en fait, c'est à l'image de l'amour et de toutes les manières différentes de l'exprimer.
Voilà, c'est ça. Pour moi, l'expression de l'amour, c'est un peu un patchwork de plein de petites choses qu'on ressent. Et...
Donc c'est un format purement adaptable, il peut être adapté en quoi alors cet ouvrage ?
Mais en ce qu'on veut.
En ce qu'on veut, parce que je crois que ça va des lectures en médiathèque, et à quoi d'autre ?
Alors ben, justement, il a été mis en scène par Natacha Rochaud et donc je joue dedans. Voilà, donc on l'a créé pour le Festival de Cave 2022 et là je le reprends le 28 janvier, donc là qui arrive, samedi, à 20h30 au Théâtre de la Rousselle à Bordeaux. Et donc on a choisi, donc il y a des scénettes de théâtre à l'intérieur qui sont des dialogues à la base dans le texte que j'ai écrit entre Colombine et Pierrot. Et donc sous la mise en scène de Natacha, on a choisi de garder Colombine, de tout regarder au prisme de Colombine, qu'elle devenait le personnage central, et de voir comment elle pense Pierrot, comment elle le fantasme, comment elle imagine ce qu'il répond. Et c'est un peu le fantasme d'une femme qui... voilà. Qui cherche l'autre, qui l'attend, et lui, on ne sait pas trop ce qu'il fiche.
D'accord. À l'image de l'ouvrage, il y aura un peu de tout, en fait, dans ce spectacle.
Voilà. Même d'autres supports, parce que bah, l'idée aussi de l'adapter, c'était d'utiliser de nouveaux supports. Donc, dans la version texte, je pouvais faire des acryliques, qui là seront d'ailleurs dans le hall. Je vais utiliser les acryliques aussi pour accueillir le public, mais je ne pourrais pas forcément les introduire dans le spectacle. Donc, il y a des supports que le visuel du livre permettait. Là, bah, le fait d'être en plateau, je vais pouvoir jouer avec d'autres codes. Notamment, il y aura un peu, je joue un peu de flûte traversière dans le spectacle. Enfin, je ne vais pas trop en dévoiler, mais voilà, il y a d'autres supports possibles.
Donc, il y aura plein de choses et visiblement, le spectacle commence dès le hall, en fait, au moment où on va prendre son billet.
Mais je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait une immersion, parce que comme c'est un texte poétique, il fonctionne beaucoup sur l'immersif, avec une ambiance très tamisée, avec beaucoup de jeux sur les éclairages. Donc je veux faire en sorte que dès l'accueil, il y ait cette atmosphère et qu'on se sente dans les étoiles.
D'accord, mais il n'y a que toi sur scène. Hein ?
Il n'y a que moi sur scène, ouais.
D'accord.
Peut-être l'esprit de Pierrot qui traîne par là.
Qui sera invoqué, comme ça va sortir du théâtre de la Rousselle. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Natacha Rochaud justement ?
Oui, alors elle est du collectif Mixeratum Ergo Sum et ils m'ont invitée, donc avec Clémentine, invitée au Festival de Cave 2022 à participer. Donc en tant que comédienne et que metteuse en scène, et donc on s'est entre-mise en scène sur 4 créations cette année. Qui après ont tourné en Gironde et j'ai fait une dizaine de dates avec Le Chemin des Étoiles, donc accompagnée de Natacha.
Et tu dirais que Le Chemin des Étoiles, ça s'adresse à quel public ?
Alors, je dirais à partir de 14-15 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce texte quand même poétique. Je pense que pour adhérer, il faut quand même un certain âge. Il y a quand même des petits clins d'œil un peu pas licencieux, mais il est possible qu'il y ait des petits cris de jouissance par moment. Bon,
d'accord.
Peut-être pas trop jeune non plus le public. Voilà, je pense qu'à partir de 14-15 ans, ça peut être adapté selon la concentration, selon la sensibilité poétique. Voilà, et après, pas d'âge limite dans l'autre sens.
Donc, on rappelle la date, c'est le samedi 28 janvier à 20h30 au théâtre de la Roussel, donc rue de la Roussel.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce spectacle alors ?
Bah, merde, il paraît.
Eh bah oui, merde, voilà.
J'ai le droit de dire merci.
Bah écoute, on va dire comme d'habitude. Claire, merci beaucoup d'être venue à Radio Campus. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce spectacle ?
Bah venez le voir.
Voilà, venez le voir, venez le voir nombreux. En plus, c'est un tout petit théâtre, La Roussel, c'est très sympa, très intime. On est toujours très proche des artistes.
Ouais, c'est un théâtre qui relance vraiment une dynamique cette année avec vraiment une programmation fournie et diverse et variée et qui mérite vraiment d'être soutenue.
Alexandre, Elsa, est-ce que vous avez une question, une remarque à faire à notre invitée Claire Poisson ?
Pas de remarque pour moi.
Très bien.
Non plus.
Oh, vous êtes sage, vous êtes beaucoup trop sage dans ce magazine. Vous les verriez en dehors des micros, ils sont foufous, ils font n'importe quoi. Bah Claire, moi je te souhaite une excellente représentation, plein de belles interprétations de merde et encore bah, de belles écritures de théâtre, de belles représentations, de belles rencontres, encore une fois. Et bonne continuation.
Merci beaucoup.